Le service Orange Monnaie, réception d'argent depuis la France, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose Appel sur l'actualité. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
La Libre Antenne, 20 minutes pour commenter l'actualité de votre choix. Vous revenez sur tous les sujets qui vous ont marqué ces derniers jours. C'est l'occasion, évidemment, si vous le souhaitez, de nous sensibiliser à des sujets dont on ne parle pas suffisamment, selon vous, dans cette émission ou de façon générale dans les médias. 33 9 693 693 70 et vous nous rejoignez également sur les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. On en parlait en première partie, on parlait de l'offensive turque contre les Kurdes dans le nord-est de la Syrie. Bonjour Yves.
Bonjour Juan Gomez.
Vous êtes à Berlin et vous souhaitiez justement nous interpeller sur cette opération militaire lancée par le président Erdogan depuis mercredi.
Oui, j'ai été un peu étonné parce que je suis d'avis qu'il faut une force d'interposition vu le danger imminent que les islamistes sont pour l'Europe. Actuellement, je suis d'avis que le président Macron a la main libre. Tous les responsables européens sont d'avis que l'intervention n'est pas raisonnée. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce que la France, actuellement qui a la main libre, n'est pas capable de s'interposer pour que on puisse discuter politiquement aux Nations Unies.
Excusez-moi. Vous dites que la France laisse faire. Excusez-moi, la France a convoqué en urgence hier soir une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je suis pas là pour défendre la France, mais puisque vous parlez de la France et du président Macron, je vous précise simplement que la réunion qui s'est déroulée hier à l'ONU, à New York, du Conseil de sécurité, c'est à la demande de la France.
Oui, je suis d'accord. Le côté politique est OK. Mais d'abord, il faut s'interposer pour qu'il n'y ait pas de morts. Jusqu'à présent, il y a des morts dans la population et on ne sait pas. La capacité de résilience des islamistes sont très efficaces. Donc, il faut même pas qu'il y ait une guerre là-bas. Le président Trump est empêtré dans son histoire d'impeachment. L'Angleterre est empêtrée dans son histoire de Brexit. Le seul qui a la main libre actuellement, c'est Macron et la France. Donc, je pense qu'il fallait qu'on s'interpose d'abord pour empêcher la Turquie, parce que la Turquie n'est pas partie aux Nations Unies pour attaquer. Alors qu'on a une coalition internationale. Mmh. Alors donc, la réflexion pour moi, c'est d'empêcher, on ne sait jamais, pendant, vous avez vu qu'à l'ONU, il n'y a pas eu de résolution.
Tout à fait.
Les États-Unis et Poutine. Poutine ne dit rien, tout le monde en Europe est OK, on a fait une passerelle à Macron, qui est le seul qui a la main libre actuellement.
Et donc, vous dites, attendez, Yves, si je comprends bien votre raisonnement, votre analyse, vous dites c'est à la France aujourd'hui de déployer une force d'interposition entre l'armée turque, pour dire simplement les choses, et les Kurdes, pour empêcher les affrontements et les combats.
Exactement. Je suis d'avis que la France a le couvert de toute l'Europe, et c'est nous qui sommes en premier lieu quand les islamistes attaquent. Les plus gros dégâts ont été faits chez nous, en Europe.
Ouais. Quand vous dites que vous craignez les islamistes, vous faites référence à ces milliers de djihadistes qui sont actuellement détenus par les Kurdes et qui risquent, si la guerre continue, de se retrouver dans la nature et par ricochet, pour ceux qui sont européens, de revenir dans leur pays d'origine, l'Allemagne en l'occurrence, la France également.
Exactement, Juan. C'est ça ma peur, en tant que citoyen européen. Parce que la capacité de récidive des islamistes, on ne les a pas tous détruits. Bon, qu'est-ce que fait la Turquie? Pourquoi est-ce que... c'est pas en Turquie qu'il y a les attentats. C'est chez nous, en Europe, ici. Alors donc, je pense que la France, actuellement, le seul pays qui a la main libre, on n'est pas empêtré. Le président Macron, actuellement, n'a plus de problème des gilets verts. Bon, il y a
gilets jaunes. Oui, effectivement. Puis il y a aussi, si je peux me permettre, Yves, et on passe à d'autres auditeurs sur d'autres sujets, le président Erdogan, lui, il a quand même sur la table un moyen de pression. C'est-à-dire qu'il dit aux Européens, en substance, si vous m'empêchez de poursuivre cette offensive, j'ouvre les frontières, j'ouvre nos frontières turques, et vous aurez plus de 3 millions de réfugiés syriens qui arriveront sur le territoire européen.
Ben oui, lui, il aura un problème d'économie avec nous, puisque l'Europe, il a un problème d'économie chez lui, donc on va jouer la carte des immigrants contre l'économie. l'Europe a la capacité nécessaire de bloquer l'économie, puisque Trump joue avec cette histoire d'économie. Et tout le monde sait que l'économie turque n'est pas tellement en bon point actuellement.
Bien. Yves, merci en tout cas de nous avoir interpellés sur cette actualité. Merci de nous écouter à Berlin, où il est 10h45. Plusieurs auditeurs nous ont contactés pour réagir à cette manifestation qui s'est tenue mercredi à Sévaré, dans le centre de la France. Bonjour, dans le centre de la France, dans le centre du Mali. Alors certains diront, lapsus révélateur. Et pourquoi je dis ça? Parce que justement, l'objectif de cette manifestation, c'était d'exiger le départ des troupes internationales, des troupes étrangères présentes sur le terrain, la MINUSMA, la force des Nations Unies, et la force Barkhane, la force française. Bonjour Aliou.
Bonjour.
Vous êtes à Bamako et vous partagez justement les revendications de ces manifestants.
Absolument.
D'accord, c'est tout ce que vous aviez à dire.
Non, en fait...
Ah bah alors allez-y, profitez-en, Aliou.
Pourquoi je partage cet avis? Parce que j'ai remarqué que, si vous remarquez, depuis le début de cette situation, lorsque l'armée française était venue aider les nôtres pour combattre les djihadistes, arrivé à la porte de Kidal, on a dit stop à l'armée malienne. Pourquoi déjà cette situation? La seconde encore, cette Barkhane est venue, et le G5 Sahel existe, mais je ne comprends pas, avec toutes ces circonstances, on n'arrive pas à mettre fin à ces djihadismes, alors que la France dispose de tous les moyens logistiques. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La France fait semblant d'exposer effectivement sa puissance sur cet aspect, mais ils ne sont pas en train de faire jeu franc.
Ouais. Vous avez l'impression que la France a un double jeu. Quand vous dites que vous ne comprenez pas comment on n'arrive pas à éradiquer ces groupes djihadistes, c'est vrai que beaucoup d'auditeurs n'ont pas compris comment le camp militaire de Boulkessi a pu être attaqué la semaine dernière, qui est un camp tout de même du G5 Sahel, qui a complètement été détruit. Pour vous, la responsabilité, elle est uniquement dû à l'incapacité des forces étrangères. Vous, à aucun moment, vous ne vous dites que peut-être les forces maliennes elles-mêmes ont aussi leur part de responsabilité dans cet échec.
Si oui, les forces maliennes ont leur part de responsabilité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Si ils sont laissés à eux-mêmes, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe là? On a l'impression que la France maîtrise un peu l'air et ils peuvent les indiquer les moyens où peut-être attaquer, parce que quand même une guerre, c'est les stratégies. Les Français, c'est quoi qu'on en dit? Ils ont cette stratégie. Mais si cette stratégie, elle n'est pas faite dans le cadre de la France, vous conviendrez avec moi, ce serait voué à l'échec. Oui. C'est vrai, la France a une grosse part de responsabilité et la France doit se rendre compte qu'il doit tout au Mali. Aujourd'hui, s'il nous aide aujourd'hui, il faut que je se rappelle de la Première Guerre mondiale. Il nous fait seulement un retour de la monnaie.
Ouais. Et le fait d'être sur le terrain, ce n'est pas un retour de la monnaie, pour reprendre votre expression. Alors, restez en ligne, Aliou. Mohamed, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Ségou. Vous partagez le commentaire d'Aliou à l'instant, ou au contraire, vous avez un avis un peu différent?
Oui, j'ai un avis contraire à ce qu'il est en train d'avancer, parce que moi, je pense que le Mali était d'abord un État souverain. Un État souverain, on suppose qu'il y a des institutions de la République, on suppose qu'il y a une armée suffisamment mûre pour vraiment prendre la défense de ces pays. Depuis 2013, cette armée bien requinquée, et il y a aussi un programme militaire, doit avoir des moyens suffisants pour vraiment faire face à cette lutte qui est djihadiste en première ligne, et les autres forces viendront en deuxième ligne. Et malheureusement, nous voyons que cette gabegie financière, ou je ne sais pas comment est-ce que je vais l'appeler, a mis à terre nos forces armées, et il n'y a pas de renseignements adéquats, il n'y a pas d'organisation, le matériel n'y est pas. Donc jusqu'à présent, nous parlons encore de crise, nous parlons de tout ça, je pense que c'est écœurant. C'est vraiment écœurant de la part de nos administrateurs, notamment le gouvernement.
Le président Ibrahim Boubacar Keïta a rendu hommage dimanche aux soldats tués à Boulkessi. C'est la plus lourde attaque contre l'armée malienne depuis plusieurs années. Il a dit « Nous sommes en guerre, ça veut dire que ce qui s'est passé à Boulkessi pourrait malheureusement survenir encore ».
Oui, nous pouvons nous attendre à plusieurs scénarios de ce genre, parce que, en réalité, l'armée ne parvient pas à organiser la machine étatique qui est l'armée, et en train de faire face, de donner une réponse claire à ces attaques djihadistes j'étais pas multiforme. Il y a d'ailleurs une crise de multiforme au Mali. Et cette crise-là tire sa source dans la mauvaise gouvernance. Et tant que nous ne faisons pas face au vrai problème qui est ce problème de gouvernance-là,
oui.
L'armée et toute une chaîne qui sont liées à l'État lui-même.
Donc pour vous, la responsabilité incombe essentiellement au gouvernement. Pour Aliou, la responsabilité incombe surtout aux forces étrangères. Deux points de vue, liberté d'expression évidemment sur notre antenne, chacun s'exprime et livre sa vision de l'actualité. Bonne journée à tous les deux en tout cas, Mohamed Assegou et Aliou à Bamako. 33 9 693 693 70. Vous avez certainement entendu parler de la campagne Octobre Rose, c'est cette opération qui se tient chaque année au mois d'octobre, du 1er au 31, pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein et collecter des dons pour soutenir la recherche contre la maladie. Bonjour Zainab.
Oui, bonjour Juan Gomez.
Vous nous appelez de Lomé et vous souhaitiez profiter de la libre antenne pour nous parler justement de la lutte contre le cancer du sein dans votre pays.
Exactement.
On vous écoute.
Alors, je suis Zainab Moumouni, présidente de l'association Femmes sans cancer. Nous avons créé cette association au Togo pour briser le silence sur ce tueur silencieux qu'est le cancer du sein. Et à Femmes sans cancer, nous avons trois pôles d'intervention. Nous informons, nous mobilisons et nous réconfortons. Alors, nous informons à travers nos sensibilisations, en allant vers les populations cibles, à majorité donc des femmes. Et à ce jour, nous avons pu sensibiliser et former près de 2000 femmes depuis 2 ans d'existence.
Ouais. Vous disiez au Standard que aujourd'hui votre priorité c'était de lutter contre les fake news, contre les fausses informations qui circulent autour de cette maladie. Ça veut dire quoi exactement?
Oui, il y a beaucoup de mythes et préjugés qui tournent autour donc du cancer du sein. Par exemple, vous allez entendre chez nous au Togo dire que quand on te coupe le sein, tu vas mourir. Et donc, ce préjugé-là, ça fait que les femmes, lorsqu'elles arrivent à l'hôpital, on leur demande, on leur propose donc de leur faire l'ablation des seins, elles s'y opposent. Et finalement, c'est fatal.
Ouais. Je précise que dimanche, le débat africain d'Alain Foka sera justement consacré au cancer du sein en Afrique et comment vaincre les préjugés autour de cette maladie qui concerne une femme sur 9 à travers le monde. Une femme sur 9 sera touchée durant sa vie par le cancer à un moment de sa vie. Donc évidemment, plus tôt on dépiste, eh bien plus on a de chances de guérir, et c'est important de le rappeler à chaque fois. Zainab, un mot tout de même sur ce qui est fait dans votre pays, le Togo. Est-ce que vous avez l'impression que l'État, le gouvernement fait suffisamment? Est-ce qu'il y a une prise en charge du traitement du cancer du sein?
Ok, merci beaucoup. Il faut reconnaître que de nos jours, il y a une réaction positive de la part des pouvoirs publics togolais. Après le décret pris en 2015 créant l'Institut national de cancérologie, en mars dernier 2019, un décret a été pris nommant l'autorité de direction de cet institut. Et récemment, en août 2019, il y a eu vote de la loi sur le nucléaire. Et nous pensons que le gouvernement a pris sur lui donc la charge donc oui. d'aider, de soutenir la population au fléau donc du cancer du sein.
Merci beaucoup Zainab de nous avoir contacté et de nous avoir parlé de ce sujet. On va continuer à parler santé puisque Cled nous a contacté en milieu de semaine. Il est à Pointe-Noire au Congo. Bonjour Cled.
Bonjour Johan.
Alors vous réagissez avec en toile de fond cette conférence très importante qui s'est déroulée hier et avant-hier à Lyon, conférence du Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. L'objectif c'était de mettre sur la table 14 milliards de dollars, objectif atteint. Et justement le paludisme, c'est un sujet qui vous concerne au Congo, à Pointe-Noire, puisque le Fonds mondial vient de débloquer 12 millions d'euros, ce sont 8 milliards de francs CFA pour distribuer des moustiquaires imprégnés.
Tout à fait, Johan. Tout à fait, parce que pour moi, je trouve que distribuer les moustiquaires, c'est une bonne chose. c'est une bonne chose. Mais on se limiterait seulement à des solutions palliatives. C'est une solution palliative, mais ce n'est pas toucher à la racine du problème. Le sujet sur le paludisme aujourd'hui devait normalement nous interpeller à nous poser les cinq pourquoi, à nous poser les questions des cinq pourquoi. Pourquoi on a, les gens meurent du paludisme? Et donc, il serait souhaitable qu'on attaque ce problème à la racine. Quand vous arrivez à Brazza ou à Pointe-Noire, vous avez les lieux de prolifération des moustiques partout. Vous aviez des mares d'eau, vous aviez des douches domestiques. Il n'y a même pas de campagne de sensibilisation au niveau des comités de quartier interpellant les populations à éliminer ces...
Le réseau téléphone n'est pas très bon, Claude, je suis désolé, mais c'est souvent le cas d'ailleurs avec Pointe-Noire. Mais vous dites donc en substance, c'est bien beau de distribuer des moustiquaires imprégnés, mais il faut s'attaquer à la racine du problème, il faut assainir les villes.
Tout à fait, tout à fait. Il faut assainir les villes, c'est ça. Ouais. Mais nous avons des comités de quartier qui sont mis en place. Et quand vous êtes à Pointe-Noire, que ce soit à Brazza, vous ne sentez pas qu'il y a une sensibilisation autour de cette question d'élimination des lieux d'hébergement des moustiques. Vous ne sentez rien.
Oui. Effectivement, vous avez raison, c'est un point important que vous évoquez, et d'ailleurs Caroline Paré en parlera dans un quart d'heure maintenant, puisque Priorité Santé va dresser un bilan de cette conférence de reconstitution du Fonds mondial contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. 14 milliards de dollars ont été récoltés. Maintenant, quelles perspectives pour la recherche et la riposte? Quelles actions concrètes dans les pays du Sud? Caroline Paré en parlera donc juste après le journal dans un quart d'heure. Autre sujet qui suscite, alors là pour le coup, énormément de réactions, je le prends en fin d'émission, car on a eu l'occasion déjà d'en débattre ensemble cette semaine, c'est la Guinée. La Guinée où l'opposition se prépare à manifester lundi prochain contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Alaoudine, bonjour.
Bonjour Monsieur Juan Gomez et bonjour à vos millions d'auditeurs à travers le monde.
Merci de nous écouter à Conakry. Vous souhaitiez vous exprimer justement sur cette stratégie de l'opposition qui boycotte les consultations concernant une éventuelle nouvelle constitution et après le boycott, appelle à manifester.
Oui, et ce qui est surtout révoltant dans leur appel aux manifestations, au fait, ils interdisent à toutes les sociétés évaluant sur le territoire guinéen de cesser toute activité pendant leur marche pour éviter d'être attaqués, violés et violentés. Mmh. Ce qui est grave pour une opposition qui prétend aujourd'hui réclamer la démocratie et la bonne gouvernance. Aujourd'hui, je pouvais mieux comprendre l'opposition si elle attendait à l'expiration du mandat du président de la République ou à l'annonce officielle du président de la République de son intention de se présenter pour un troisième mandat pour qu'il manifeste.
Oui. Pour l'instant, effectivement, le chef de l'État a simplement dit qu'il consultait pour voir s'il fallait, oui ou non, une nouvelle constitution. Les opposants disent, mais il y aura, quoi qu'il arrive, une nouvelle constitution, puisque le chef de l'État veut à tout prix briguer un troisième mandat. Il veut se maintenir au pouvoir. Mais pour l'instant, le chef de l'État lui-même ne s'est pas officiellement exprimé sur ce point.
Exactement, ce qui veut dire que la nouvelle constitution est différente par rapport à la question du troisième mandat. Mmh. Aujourd'hui, regardez par exemple l'article 61 de la constitution de notre pays.
On ne va pas rentrer dans le détail de la constitution Alaoudine, simplement vous reprochez à l'opposition de vouloir manifester et de prévenir les acteurs économiques de fermer boutique lundi car il risque d'y avoir des violences.
Exactement, et mieux, c'est l'ouverture de l'année scolaire aussi. L'année passée, nous avons enregistré des perturbations, l'année scolaire n'a pas pu se dérouler comme prévu. Et cette année, aujourd'hui, nous risquons aussi de porter préjudice à nos enfants, parce qu'ils ne vont pas pouvoir étudier, ce qui est dommage.
Mais la violence ne viendra pas forcément à la Odine du côté des manifestants. On sait qu'aussi les forces de l'ordre, les forces de sécurité peuvent avoir une attitude répressive.
Oui, mais ça c'est bien possible. C'est pourquoi je ne dédouane pas les forces de l'ordre. Mais